Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans tous vos challenges personnels et professionnels.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est le deuxième type de cancer le plus fréquent chez les femmes, après le cancer du sein, avec des taux d'incidence et de mortalité les plus élevés, notamment dans les pays en développement. Pourtant, ce cancer reste largement méconnu, ce qui entraîne un diagnostic tardif dans 75% des cas, ce qui prive les patientes de toute possibilité de guérison, alors que vaccins et traitements existe pour empêcher sa survenue. Ce cancer, c'est le cancer du col de l'utérus. Selon le Centre international de recherche sur le cancer, en 2020, plus de 600 000 femmes avaient été diagnostiquées dans le monde et plus de la moitié sont décédées des suites de cette maladie. Et le continent africain n'est pas épargné, loin de là. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous vous emmenons en Côte d'Ivoire, pays dans lequel les femmes sont particulièrement touchées par la maladie, selon le registre des cancers d'Abidjan. En 2020 toujours, 2067 femmes ont été diagnostiquées et 1417 en sont mortes. Méconnaissance, tabou en raison de la zone du corps concernée. Fausses croyances, manque de sites de dépistage et d'accès à la vaccination constituent autant de freins à la prise en charge de cette maladie qui évolue pendant de nombreuses années à bas bruit, sans aucun symptôme, si bien que les femmes ne perçoivent pas forcément l'intérêt de se faire dépister et ne découvrent la maladie que trop tard. Face à l'ampleur du problème, l'OMS a lancé en 2020 l'initiative mondiale pour l'élimination du cancer du col de l'utérus à l'horizon 2030, avec des innovations dans le dépistage comme dans le traitement. Un projet de prévention dénommé SUCCESS a été initié dans 4 pays du monde, dont la Côte d'Ivoire. Alors, quels sont les résultats attendus? Comment se passe la mise en place d'un tel projet sur l'ensemble du territoire ivoirien? Quelles sont les difficultés rencontrées? L'intensification de la lutte contre le cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire, c'est un reportage d'Igor Strauss.
La maladie dont j'ai dit le nom, là, le cancer, là. Il y a plusieurs cancers. Il y a cancer du sein, il y a cancer de la peau. Le cancer se situe un peu partout. Mais aujourd'hui, je vais te parler du cancer du col de l'utérus. C'est un virus qui vient se mettre sur le col. Ça peut rester pendant des années, ça est sur le col. Parce que le virus, ça, quand ça vient, tu n'as pas mal à la tête. Ton corps ne chauffe pas. Tu es là, tu te promènes, tu fais ta vie. Arrivé à un certain moment, il va déclencher. Et quand il déclenche, tu saignes. Et ton col, qui était comme ça, joli, ça devient comme ça. Ça, c'est au stade cancer. On sera obligé de t'envoyer au CHU. Et tu seras obligé de dépenser. Ils vont te demander les histoires de chimio. Tu vas dépenser et peut-être que tu ne vas pas t'en sortir. Mais non. Si tu te fais dépister tôt, qu'on voit que le virus est là, il existe, il y a un traitement. Le traitement là, c'est pas compliqué, ça fait pas mal, c'est pas coûteux. Tu payes rien même, puis tu guéris.
Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Le projet SUCCESS, un projet de prévention secondaire du cancer du col de l'utérus, a donc débuté en 2021 en Côte d'Ivoire et va se poursuivre jusqu'en 2023. Quels en sont les objectifs?
Eh bien, l'objectif, c'est de dépister 55 000 femmes de 25 à 49 ans dans les 4 régions sanitaires concernées par le projet, à savoir la région du Haut-Sassandra, la région d'Ugbeke, la région d'Abidjan 1 et Abidjan 2. Parmi ces 55 000 femmes, plus de la moitié, à savoir environ 38 500, sont censées être des femmes séropositives, car le VIH rend ces femmes beaucoup plus vulnérables au HPV, le papillomavirus, le virus qui provoque à long terme le cancer du col de l'utérus. Et puis, il y a également un volet vaccination contre le HPV pour les jeunes filles de 9 ans. D'ailleurs, ce vaccin a été intégré au PEV, le programme élargi de vaccination en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi à 9 ans, me direz-vous? Eh bien, parce que pour que le vaccin soit efficace, il faut absolument 2 doses de vaccin d'une part, et d'autre part, que la jeune fille n'ait jamais eu de rapport sexuel.
Alors, quels sont les autres pays, Igor, concernés par ce projet Success ?
Pour l'instant, il y a 4 pays, la Côte d'Ivoire donc, le Burkina Faso, le Guatemala et les Philippines, mais d'autres pays pourraient suivre bientôt.
Alors, qui finance ce programme et qui le met en œuvre ?
C'est un projet qui est financé par United, mis en œuvre par Expertise France, qui collabore avec JPAEGO, une ONG américaine, et l'Union internationale contre le cancer, qui ont déjà une expertise dans la prévention et la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Et tout cela se fait évidemment en concertation avec le Programme national de lutte contre le cancer, la structure technique du ministère de la Santé ivoirien.
Direction maintenant le centre urbain de Nimbo, le centre qui a réalisé le plus de dépistages sur les 11 sites de cette région de Boaké. Nous sommes à présent en compagnie d'Edith Aladé, assistante technique pour le projet Success auprès de l'ONG américaine JPAEGO.
D'abord le matin, on fait une sensibilisation pour leur dire un peu les activités qu'on mène dans ce centre de santé, notamment le dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc celles qui sont éligibles, on les prend pour le dépistage du cancer du col de l'utérus.
Et lesquelles sont éligibles ?
Généralement, bon, d'abord la cible, c'est de 25 à 49 ans. Et puis les femmes qui ont accouché, qui ont plus de 6 semaines après l'accouchement, ces femmes-là sont éligibles. Et puis les dames qui viennent pour la planification familiale. Et puis comme je l'ai dit, pour la consultation postnatale. On a aussi, par moment, les accompagnatrices qui viennent. Donc quand on sensibilise, elles aussi, on les dépiste pour le cancer du col de l'utérus.
Alors ici, on est dans un centre de santé urbain,
oui,
à Boaké.
Oui.
Est-ce que le fait d'être en ville, ça change en termes de connaissance des dames? Ou est-ce que ce serait la même chose que dans un dispensaire en brousse?
Ça change quand même. En ville, elles sont un peu plus informées. Dans les villages, il y en a qui ne sont même pas informés. Il y en a même qui ne savent même pas. Comme on le dit, on a nos coutumes, nos cultures. Donc, même quand les femmes font elles ont les signes ou les symptômes du cancer du col de l'utérus, à première vue, elles ne pensent pas à ça. Elles pensent à autre chose. Elles pensent à un sort qu'on les a lancé, puisque vraiment, la maladie est un peu mieux connue au niveau des villages. Voilà. Donc, avec une plus grande sensibilisation, avec une bonne information, je pense qu'elles vont adhérer. Parce que l'infection au papillomavirus humain. Et puis, les lésions précancéreuses sont asymptomatiques. C'est-à-dire que quand on est infecté par le HPV, on n'a aucun symptôme. Tu ne sais pas que tu es infecté. Pour le savoir, il faut te faire dépister. Donc, c'est très important de faire le dépistage précoce. Même quand on ne ressent rien, on insiste sur ça. Parce qu'on est en Afrique. Elle va te dire, elle n'est pas malade, elle ne ressent rien. Pourquoi tu veux qu'elle se fasse dépister? Pourquoi tu veux qu'elle se fasse traiter? Mais il faut lui faire comprendre dans la sensibilisation que lorsqu'on est infecté au papillomavirus, on ne vous ressent vraiment rien. Donc il est très important, très très important de se faire dépister. Et lorsqu'on se fait dépister, qu'on constate qu'on a le virus dans son corps, ou bien qu'on a les lésions précancéreuses, on traite. Dans le même centre de santé, on peut te traiter. Et puis arrêter carrément l'évolution de la maladie. Et puis vous êtes sauvé. Donc voici l'importance du dépistage précoce, sauve des vies.
Il y a toujours beaucoup de mamans là, hein, qui attendent.
Oui, il y a beaucoup de mamans qui attendent.
Bonjour.
Bonjour.
Entrez. C'est la patiente. Elle va se présenter.
Je m'appelle Luisette. J'ai 37 ans. Je n'ai pas d'enfant encore.
Donc vous êtes la première patiente?
Oui, c'est la première patiente de la SACHE.
Alors expliquez-moi comment ça s'est passé. Pourquoi vous êtes venue ici?
Parce qu'à mon sein gauche, il me faisait mal. Donc j'étais venue pour faire le test de cancer du sein. Et c'est avéré qu'ils m'ont donné. La sage m'a proposé de faire pour le col de l'utérus. Donc j'ai accepté parce qu'elle m'a dit. Puis j'ai fait un mois après, elle m'a appelé. Elle m'a dit non. Vraiment de venir, on va refaire encore d'autres tests. Donc je suis revenue parce que c'était positif. Et après ça, elle a fait mon traitement. Je suis partie. Un mois après, je suis revenue. Elle m'a dit tout allait bien. Et puis, je suis rassurée.
Et avant qu'on vous propose le test, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la maladie, du cancer du col de l'utérus? Vous étiez déjà informé, vous?
Oui,
ou pas?
J'ai entendu parler de la maladie. Mais je me dis, chez moi peut-être, ce qui a fait que moi-même, je ne me suis pas levée pour faire mon test de col de l'utérus. Je prends un exemple, le palu comme ça là, il y a ses symptômes. Donc moi, chez moi, peut-être qu'il y avait un symptôme, donc je n'ai même pas considéré. Je me dis, peut-être, puis je laissais. Sinon, j'ai entendu parler ça, tu es même la mère d'une camarade. Mais yo, je n'ai pas eu l'idée de faire le test. Parce que je me dis, peut-être, il y a un symptôme, quand ça va se présenter, je vais le faire. Donc, je suis venue, puis j'ai fait le test comme ça.
Et le test, vous l'avez accepté sans problème, ça n'a pas été un problème. Voilà, du bon courage un peu quand même.
Quand j'ai fait le test, le premier résultat qui est sorti, on m'a dit que c'était positif, que je devais refaire un autre test. Vraiment, je n'ai pas supporté. Parce que les années passées, ça tuait une maman qui ne savait pas. Donc, vraiment, je me dis, tout était fini. J'étais abattue. Je ne savais pas que ça se guérissait. Je ne savais pas. C'était dur. Mais vraiment, la sage vraiment a été vraiment une maman, une grande soeur pour moi. Elle était tout le temps là. Donc, ça fait que je n'étais pas trop stressée. Et puis, j'oubliais à cause de ses conseils. Souvent, elle m'appelait juste à ce que j'attendais. Parce qu'elle a fait un traitement.
Alors, c'était quoi le traitement, justement?
Thermocoagulation.
C'est douloureux. Mais vraiment. En tout cas, ça m'a fait mal. Mais j'ai vu que vraiment la douleur. Et puis, un mois après, le résultat était bon. Vraiment, je préfère ça. Attraper mon cœur et puis faire le traitement et voir un bon résultat. Non, vraiment. C'est douloureux, mais vraiment, c'est bon. Je suis contente.
Edith Aladé, Où est-ce que vous nous emmenez maintenant?
Alors, je vous envoie au centre SAS, un service qui fait la prise en charge des femmes vivant avec le VIH, généralement ici. Et ici, on est au service de pédiatrie et de la consultation prénatale. Voilà. Là, l'infirmière est mieux placée pour vous donner toutes les informations.
Madame l'infirmière, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez?
Moi, ça va très bien, et vous?
Soyez la bienvenue, ça va.
Merci. Je vous laisse vous présenter.
Oui, bon, moi, c'est Wataola Taminata, infirmière au centre SAS, point focal dépistage cancer du col de l'utérus.
Est-ce que c'est un gros problème, ça, le cancer du col de l'utérus, dans la file active que vous suivez ici de femmes vivant avec le VIH?
Oui, c'est un gros problème parce que, étant déjà séropositif, la femme a déjà l'immunité qui est déjà défaillante. Et une personne séropositive qui a le virus du cancer du col de l'utérus est deux fois plus exposée. Le virus est plus rapide chez cette dernière personne. Donc, c'est vraiment un gros problème. Donc, se faire dépister tôt, vraiment, est beaucoup intéressant. Au moins 15% qui ont fait le test, qu'on a détecté le virus et qu'on a pu traiter. Et il y a d'autres aussi qu'on a référé au CHU pour une raison de lésion large.
Avec les complications.
Donc, on les a référés au CHU pour une meilleure prise en charge, puisque nous sommes limités par la cryothérapie ou la thermocoagulation. Donc, quand la lésion est large, on les réfère au CHU.
Mais il y a beaucoup de femmes avec des lésions larges, justement?
Non. Il n'y a pas beaucoup de femmes. On a eu un cas de décès du cancer du col de l'utérus. C'est déplorable, mais ça arrive malheureusement.
Est-ce que le préservatif préserve du papillomavirus, de l'HPV?
Oui et non. Puisque le préservatif, c'est vrai, c'est sur le plan sexuel. Mais par les attouchements, le virus, il est un peu partout. Donc c'est vrai, le préservatif peut préserver, mais il faut faire attention. Parce qu'il y a les attouchements, on ne mettra pas le préservatif
sur les doigts.
Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, se faire dépister, tout, c'est très important pour connaître au moins ton statut. Voilà.
Alors là, on est dans la salle de dépistage, justement.
Oui.
Ah, il fait bien frais. C'est un local, c'est comme un container, en fait, c'est ça?
Oui, c'est un container.
D'accord, ça c'est bien. On était tout à l'heure au centre de santé de Nimbo, où on me disait que certaines mamans sont assez réticentes finalement à faire vacciner les jeunes filles de 9 ans parce qu'elles ne comprennent pas. Elles disent que ma fille n'a pas de relations sexuelles.
Oui.
Est-ce que pour les femmes séropositives, avec peut-être des enfants séropositifs, c'est plus facile de faire accepter la vaccination? Ou est-ce qu'elles ont les mêmes réticences à dire non, à 9 ans, on est trop jeune?
Elles ont les mêmes réticences. Elles se disent, ah, la petite, elle n'a pas un souci, elle n'a pas de truc, pourquoi aller la faire vacciner? Voilà. Elles n'ont pas encore compris l'importance de la vaccination. Donc, c'est de faire passer encore la communication, voilà, au niveau de la population.
Les mentalités commencent à évoluer, vous voyez des progrès?
Oui, ça a évolué, ça a beaucoup évolué, puisque le vaccin est accessible maintenant. Au district, par exemple, on fait la vaccination de l'HPV. Donc, on oriente les jeunes filles là-bas pour la vaccination. Donc, maintenant, c'est plus comme avant où c'était un peu... L'information était un peu concentrée. Mais maintenant, c'est... vraiment large. On a fait des sensibilisations aussi dans les écoles où on vaccinait les petites filles, tout ça. Donc on continue encore de faire la communication.
Fatou, c'est moi. Fatou, c'est moi, c'est Aladé.
Alors madame, la point focale, madame Aladé, on est où là?
Nous sommes au CHU, le centre hospitalier universitaire de Boaké. Nous sommes au service de gynéco, où on mène les activités de prévention du cancer du col de l'utérus. Ici aussi, on fait les frottis cervico-vaginaux, on fait les biopsies. Vu que c'est un centre hospitalier universitaire, le plateau technique est encore plus élevé ici.
Et c'est là notamment que sont référés les cas un peu compliqués, oui, qu'on ne peut pas traiter dans les centres de santé.
Oui, effectivement. C'est ici que sont référées les dames pour les lésions larges ou les dames qui sont déjà au stade du cancer, quel que soit le stade. Voilà, c'est dans, les dames sont référées ici. Les dames aussi qui sont ménopausées, qui ne peuvent pas être prises en charge au niveau du projet, sont référées ici pour pouvoir faire au moins le dépistage, au moins le frottis une fois. Donc voilà un peu.
Alors quelle est la particularité justement pour les femmes ménopausées? Est-ce que ça change quelque chose en termes de cancer du col de l'utérus?
Je pense que oui. La sage qui est ici pourra peut-être mieux répondre puisque c'est elle qui côtoie ces dames-là le plus souvent.
Bonjour madame la sage-femme.
Bonjour monsieur.
Tout simplement, je vais vous laisser vous présenter.
Je suis la sage Diabaté Fatoumata, sage-femme en planification au CHU de Boaké.
Est-ce que les cancers du col de l'utérus sont fréquents pour les femmes ménopausées? Et comment se passe la prise en charge pour ces femmes?
Le cancer du col est très fréquent pour les femmes ménopausées. Parce que généralement, ces femmes ménopausées, elles ne font pas de dépistage. Puisqu'elles sont ménopausées, elles ne font plus de règles. Lorsqu'elles voient un saignement, du coup, ça les irrite. Elles courent, elles viennent à l'hôpital. Et quand on fait l'examen, on découvre que déjà, elles ont un cancer.
Et le saignement, il faut le préciser, est signe d'un cancer avancé, c'est ça? Signe d'un col qui est déjà bien abîmé.
Oui, le saignement est signe. Bon, ça dépend, hein. Il y a des saignements. Il y a des femmes qui sont très regardantes. Quand elles ont un petit saignement, elles courent, elles viennent. Par contre, il y a certaines qui tardent. Elles vont chez les tradis praticiens, comment elles font les soins, C'est quand elles n'arrivent pas à amender les saignements qu'elles courent, elles viennent à un stade déjà avancé. Sinon, celles qui sont regardantes, quand elles viennent, c'est tout juste le début. On peut les prendre en charge facilement.
Mais si elles viennent tardivement, c'est plus compliqué la prise en charge?
C'est plus compliqué parce qu'il faut faire la biopsie d'abord pour confirmer, les évacuer sur Abidjan au service de cancérologie. Et ensuite, faire certains examens avant de procéder aux séances de chimiothérapie ou de radiothérapie. Donc vraiment, la prise en charge est chère, c'est difficile.
Mais ça, ça complique encore plus la prise en charge, le fait de devoir être référé à Abidjan. J'imagine que pour les femmes, c'est compliqué,
De Boaké. Parce que celles qui n'ont pas de parents à Abidjan, ça revient compliqué vraiment.
Et du coup, est-ce que certaines femmes renoncent aux soins?
Bon, oui, celles qui n'ont pas les moyens, elles renoncent aux soins.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe?
On ne les revoit plus. Mais souvent, celles qui viennent, bon, après c'est la mort. On les assiste, on les accompagne. C'est triste, mais c'est la réalité. Elles sont anémiées, on les transfuse. Les soins palliatifs jusqu'à ce que... Bon, elles rendent l'âme, c'est tout.
Mais ça, c'est fréquent?
Oui, un peu fréquent. Par contre, il y a certaines qui vont à Abidjan. Ça, c'est rare.
Comment vous le vivez, vous, en tant que sage-femme? Vous êtes proche de vos patientes, vous les connaissez. Les voir condamnées à une mort quasi certaine, comment vous le vivez?
C'est très difficile. Souvent, quand elles viennent, on a les larmes aux yeux, mais il faut les encourager. On ne peut pas montrer à la patiente qu'on est découragé. Donc on fait force sur nous-mêmes pour leur dire que non, ça va aller, mais tout en sachant que vraiment, ça ne peut pas aller.
Mais ça, cette situation, qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça veut dire finalement de la situation ici en Côte d'Ivoire sur la prise en charge des femmes victimes du cancer du col de l'utérus?
Bon, Jipaigo fait son...
Jipaigo, c'est une ONG américaine.
Une ONG américaine qui vient quand même en aide aux femmes. Ils viennent, on fait les dépistages. Dès qu'on découvre, on fait la prise en charge. Mais généralement, il faut reconnaître que les femmes n'aiment pas trop venir à l'hôpital. C'est ça le vrai problème. Elles restent quand tout est déjà terminé, qu'elles viennent à l'hôpital.
Mais pourquoi elles n'aiment pas venir à l'hôpital? Qu'est-ce qu'elles vous disent?
Par faute de moyens ou bien elles aiment les tradis praticiens. C'est la culture, je pense. Souvent, il faut faire la police derrière elle. Venez, venez, nous sommes ici. Généralement, quand une vague de vieilles femmes se suit pour venir faire le dépistage, c'est qu'une est morte. Quand elles viennent, elles disent non, on a perdu notre soeur. On a dit que c'était le cancer du col. Voilà pourquoi nous, on vient se faire dépister. C'est triste, mais on assiste à ces gens de scène ici. C'est ça. Tout ça, là, c'est la pauvreté. Un problème d'ignorance, de manque d'information, ajouté à la pauvreté. Je pense que c'est ce problème-là, surtout.
Alors, c'est une situation compliquée pour vous?
Très compliquée. Je vous avoue que souvent, j'ai mal au cœur. Quand je vois les mamans qui viennent, c'est une situation où on ne peut plus les aider. Il n'y a pas de l'argent pour la prise en charge. Vraiment, ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur.
Écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire pour parler de la lutte contre le cancer du col de l'utérus, un cancer qui continue de faire des ravages dans le pays en dépit de l'existence de vaccins et alors que des traitements peuvent être efficaces pour empêcher la maladie de se développer si le dépistage est fait assez tôt. Face à l'ampleur du problème, l'OMS a lancé en 2020 l'initiative mondiale pour l'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030 avec des innovations dans le dépistage et le traitement. Un projet de prévention secondaire du cancer du col de l'utérus dénommé Success a été initié dans 4 pays du monde, dont la Côte d'Ivoire. Quels en sont les résultats? Voici la suite du reportage d'Igor Strauss. I hear them calling me. Will I answer? Igor Strauss, on parle d'innovation dans le dépistage et le traitement. Concrètement, de quoi s'agit-il?
Eh bien, concernant le dépistage, avant, on pratiquait l'IVA, l'inspection visuelle par acide acétique. Alors, concrètement, il s'agissait d'observer le col de l'utérus. Pour cela, il fallait donc écarter les parois du vagin avec un spéculum pour avoir accès au col. C'est donc une méthode invasive, pas forcément agréable pour les femmes. Certaines d'entre elles refusaient donc de montrer leur intimité, même pour des raisons médicales. Avec le nouveau dépistage, on ne cherche plus à voir le col de l'utérus, mais à savoir si le virus, le papillomavirus, est présent sur le col. Pour cela, on utilise donc une sorte de coton-tige tout fin que l'on tourne 4 à 5 fois sur le col. C'est extrêmement simple, donc les femmes peuvent le faire elles-mêmes, rapide et sans douleur. On évite donc les problèmes liés à la crainte et à la pudeur.
Et en ce qui concerne le traitement?
Eh bien avant, on utilisait la cryothérapie pour traiter les lésions précancéreuses de petite taille. La cryothérapie permet de détruire avec une sorte de petit pistolet ces lésions par le froid. Pour cela, il faut une énorme bonbonne de gaz, très lourde, donc difficile à transporter lors des dépistages en brousse. Le bruit est aussi un énorme facteur de stress pour les femmes et le temps de traitement, environ 11 à 12 minutes, jugé un peu long. Désormais, on utilise la thermocoagulation. Il y a toujours un petit pistolet qui détruit les lésions précancéreuses, mais cette fois-ci avec de la chaleur et en seulement une minute. Plus de bruit effrayant, moins de gêne et un traitement beaucoup plus rapide. De plus, le matériel est extrêmement léger, donc idéal lors des séances de dépistage dans les villages.
Alors voilà pour le traitement des petites lésions précancéreuses. Comment est-ce que ça se passe, Igor, pour le traitement en cas de lésions plus étendues?
Eh bien là, on pratique la RAD ou la LIP en anglais. Il s'agit de la résection de ces lésions que l'on pratique sous anesthésie locale. Pas besoin de gros plateaux techniques, cela peut se faire assez facilement, Caroline.
Troisième cas de figure, hein, quand le cancer est installé, quels sont les traitements?
Eh bien, la radiothérapie et la chimiothérapie, qui sont très coûteuses et qui ne se font qu'à Abidjan, d'où l'intérêt de se faire dépister le plus tôt possible lorsque l'on est sexuellement actif.
Et on retourne au CHU, au CHU de Boaké avec Malimata, une patiente qui a 29 ans.
Ma mère a fait la maladie du cancer du col de l'utérus. Elle a été opérée. Ils ont sectionné son utérus. Donc depuis lors, j'étais très regardante sur la maladie. Du coup, quelques années après, en 2017, je faisais assez de pertes blanches. Donc ça a attiré mon attention. Donc en début d'année 2017, je suis allée me renseigner un peu. Et c'est de là qu'on m'a ramenée vers le CHU. Et arrivée ici le jour J, j'ai croisé Madame Diabaté. La sage-femme qui m'a entretenue là-dessus. Elle a fait ce qu'il fallait. Elle m'a expliqué un peu comment la maladie, comment ça se passe, qu'est-ce qu'elle va faire et tout. J'étais d'accord avec. Donc, je suis passée sur le lit. Elle a fait le dépistage. On est passé au stade de faire le dépistage précoce du cancer de l'utérus. Et le test était positif. Donc, elle m'a proposé déjà de faire une cryothérapie que j'ai acceptée. On a fait ça sur un mois et demi, je suis revenue pour le rendez-vous et le résultat n'était pas toujours satisfaisant. Donc, elles ont proposé à ce que je fasse une LIP que j'ai acceptée.
Est-ce que c'était une décision compliquée à prendre pour vous ou c'était l'évidence, il fallait continuer le traitement?
C'était une évidence pour moi, mais n'empêche que j'avais peur parce que je ne savais pas comment ça se passait, comment il fallait faire. Donc, je l'ai appelée une nuit même. Elle m'a rassurée, elle m'a dit il n'y a pas de souci, qu'il faut venir, c'est pour ta santé et tout. Donc, ok, pas de souci. C'est ce qu'on a fait.
Donc, vous avez été opérée. Une LIP, une ablation donc, des parties cancéreuses du col de l'utérus. Et ensuite, comment ça s'est passé?
Après la LIP, il y a un liquide qui coule. Donc, tu es obligé de porter des prothèses LIP et tout. Il y a des serviettes hygiéniques. Donc, quand le liquide a arrêté de couler, elles ont regardé. Je pense qu'elles ont fait un test encore pour voir et m'ont dit que c'était bon. Voilà.
Donc, est-ce que c'est quelque chose de contraignant pour une femme?
Bon, un peu, mais c'est pas bien grave. C'est pas horrible, voilà, je vais dire, c'est pas horrible. Voilà.
Vous, donc vous êtes étudiante, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez avec vos camarades? Est-ce que c'est un sujet de conversation entre femmes, tout simplement?
Bon, avant, on n'en parlait pas. Mais
c'était
comment j'ai fait? Oui, c'était un tabou. Bon, je vais dire qu'il y a aussi une méconnaissance de la maladie. C'est vrai que moi, ma mère a fait la maladie, mais mes autres, j'ai des amis proches qui n'étaient pas au courant. Mais là, il faut le dire, quand j'ai su que pour moi, était positif, j'ai parlé à des amis. Il y a une même qui est venue la voir. Donc, j'en parle, je leur explique qu'il est mieux de se faire dépister tôt que d'attendre des années plus tard. Donc, bien évidemment, elle s'intéresse à la chose. Mais le truc, c'est que les gens ne savent pas, les gens ne sont pas informés.
Mais c'est ça, c'est ce que disait la sage. Malheureusement, les femmes viennent consulter lorsqu'il y a un décès, donc quelque chose de tragique. Et vous-même, c'est parce que votre maman...
Effectivement.
Rétrospectivement, en y repensant, si votre maman n'avait jamais eu ce problème, est-ce que vous auriez été encouragée à aller faire le dépistage? Est-ce que vous l'auriez fait?
Non, je ne pense pas. Parce que vu que maman a été confrontée à la maladie, il y a certains signes qui nous interpellent, voilà.
Comme on touche à une zone personnelle, hein, c'est la sexualité, c'est le sexe. Est-ce que du coup c'est difficile d'aller en parler? Est-ce qu'il peut y avoir une gêne à en parler?
Effectivement, ce que vous dites, ce n'est pas faux. Il y a certains moments où elles ont peur, non, c'est je ne veux pas, j'ai honte. Et puis après, ça devient quelque chose de catastrophique. Au moment où tu vas te décider à venir, c'est trop tard. Quelqu'un qui peut te rendre service, quelqu'un qui peut te soigner, si tu te caches de cette personne-là, mais c'est grave. C'est grave et c'est ce qui fatigue certaines de nos mamans. Non, si c'est pas mon mari, me touche pas. Souvent, on voit ce genre de scènes. C'est récurrent même. Ou bien même si c'est un sage homme, par exemple. Non. Il me touche pas. Moi, c'est compliqué.
Et est-ce que les mentalités changent avec vous, la jeune génération? Ou est-ce que même chez les jeunes, il y a encore cette notion de tabou? Et si c'est un homme qui est génico, il me touche pas?
Non.
Est-ce que ça évolue selon vous?
Oui, ça évolue. Les gens changent, la mentalité aussi change. Donc, les choses évoluent, franchement. Je ne vois pas, je n'en connais pas même quelqu'un de mon entourage qui va me dire que non, parce que c'est un homme, il ne me touche pas. Dans le sens, c'est un gynéco, c'est un homme, il ne me touche pas. Non. Je n'en connais pas.
La prévention est donc primordiale. Encore faut-il passer les messages correctement. Alors Igor Strauss, vous avez rencontré Tania Dibi, elle est assistante sociale au FSUCOM de Nyongon à Abidjan et elle a ses techniques, ses propres méthodes pour faire passer les messages.
Quand je veux commencer, je dis généralement, est-ce que vous connaissez le cancer? Il y a quelques-unes qui lèvent le doigt, oui.
c'est une maladie. Je dis, bon, oui, bon, vous connaissez les différents types de cancers. Il y a d'autres qui disent, bon, généralement, le cancer du sein. Et puis, je leur demande, est-ce que vous avez déjà entendu parler du cancer du col de l'utérus? Quand elle commence, il y a d'autres qui ne savent pas ce qu'est le col de l'utérus. Et alors que dans nos langues ici, partout, même les tradis patriciennes au marché, elles ont des plantes qui traitent tout ce qui est bobo au niveau de la partie génitale. Donc là-bas, le mot qu'on emploie généralement, c'est le bobo dormant. Donc quand tu leur demandes, est-ce que vous connaissez le bobo dormant? Elles sont à l'aise. Ah, c'est le bobo dormant. Ah, c'est ça qui est quoi de lui? Ah, c'est gros français pour celles qui ne savent pas ce que c'est. Donc déjà, elles savent de quoi il s'agit. Je leur demande, le bobo dormant là, est-ce qu'on peut toucher? Est-ce qu'on peut voir? Puis elles même expliquent. Non, ça est dedans, c'est à l'intérieur. Donc déjà, je suis allée, je sais que elles savent de quoi je parle. Et puis, on rentre dans le but du sujet. Parce qu'elles sont captivées. Elles écoutent. Il y a des mots que tu vas dire qu'elles ne vont pas comprendre. Donc, par exemple, quand tu as des partenaires sexuels multiples, quand tu vas dire ça, il y a d'autres qui ne sauront pas même ce que ça veut dire partenaire sexuel multiple. Donc, je leur donne quelques exemples. Je cite les noms des différentes origines de la Côte d'Ivoire. Je peux dire, par exemple, une femme aujourd'hui qui sort avec Wadio. Demain, elle est avec Touré. Après demain, elle va chez Dibeu. Même elles explosent de rire. Donc, elles savent qu'il s'agit des femmes un peu frivoles. Excusez-moi, mais les femmes frivoles, c'est qu'elles ont beaucoup de gars, c'est ce qu'on dit. Donc, quand tu expliques comme ça, même elles explosent, elles commencent à rire. Puis elles disent, oh. Donc, c'est des choses, des petits mots comme ça qu'on fait pour qu'elles soient à l'aise. Et puis, quand on finit le conseil, elles sont intéressées.
Et du coup, quand vous donnez des conseils comme ça, on va dire sur 10 femmes, combien acceptent de faire le dépistage et combien ne le font pas ou ont encore des doutes?
En tout cas, c'est une très bonne question parce que sur 10 femmes, il peut y avoir 8 ou 7 qui adhèrent. Tout de suite, elles disent « je veux faire ». Il peut y avoir 2 ou 3 qui quand même qui disent « ça fait pas mal ». Elle pose des questions. Donc, c'est ce truc-là, puisque je leur montre le kit. C'est ce truc-là que je vais introduire dans le vagin. Est-ce que ça fait pas mal? Moi, vraiment, je sais pas. Elles sont un peu réticentes. Et quand je leur explique, je prends d'autres exemples encore. Je leur dis, entre la petite tige, là, et puis ce qu'on voit, nous, les femmes, chaque soir dans la chambre, ce que monsieur fait sortir, là. Dites-moi, entre la tige et puis ce qu'on nous montre tous les 4 heures du matin, là. C'est quoi qui est plus? En même temps, elles exploseraient. En même temps, si je les 10 femmes, elles toutes vont adorer. Elles disent, non, toi, tu es grave. Elles disent, mais c'est vrai. Il y a ce qu'on voit là-bas qui est plus gros que ça, Dieu tendu, on n'avait pas peur. C'est la petite tige qui ne fait même pas ça, chatouille, même pas même là. C'est ça que... Vous refusez, même temps, elles commencent à rire et puis elles adhèrent. Donc, ça fait que moi, quand je fais l'essai, je suis à l'aise avec les femmes. Bon, je n'ai pas de contenu. Je trouve que c'est vraiment, c'est intéressant. Donc, c'est ça.
Proper, no lie, lie, give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor, riff raff, kitty gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie, bougie, akile, oh I fancy when I see a type.
Point and kill, if I born it, it's mine, you can't stop me, hey, you can't stop me, oh. Trust them, point and kill any imposter. Smooth.
trouble, never stalking cost time. That's in any city, you can come and see it with me. Reality will hit you, cause not everywhere's pretty. But for now, bring the Naira, come gimme. Can't stop greatness, what's the point in trying hard not to recognize the full this pressure we applying? Tell my people, rise up, can never be silenced. You think we're apologetic, I think we're defiant. Mommy say I gotta be a go-go getter. Got the devil trying to tempt me, but I know better. Never been the type to not acknowledge all the signs. It's the fact that everything I want is in front of my eyes. So when I see it die,
one thank you. If I born it, it's mine.
Et les hommes dans tout cela, quel rôle jouent-ils? Sont-ils présents auprès de leurs épouses ou de leurs partenaires? Élément de réponse avec le docteur Ida Zadi, conseillère technique de l'ONG américaine GPIGO dans le district d'Abidjan.
Les hommes ne savent pas qu'il faut accompagner la femme jusqu'au bout, que ça aille bien ou pas. C'est vous qui êtes son parent le plus proche, c'est vous qui êtes sa force. Un conjoint, c'est la force de l'autre. Mais il y en a qui ne soutiennent vraiment pas leur femme, c'est une affaire.
C'est une majorité ou une minorité?
Une majorité, faut être franc. C'est une majorité.
Donc il y a tout un gros travail de sensibilisation auprès des hommes aussi. Alors.
Oui, oui, toute une éducation globale et puis après spécifiquement pour le cancer du col de l'utérus. Parce qu'après le traitement, c'est 4 semaines sans rapport sexuel. Donc il faut qu'ils soient informés, qu'ils comprennent. Il ne faut pas insister. Il faut laisser madame tranquille, il faut laisser le col cicatriser avant de reprendre les rapports sexuels. Donc c'est bon que le conjoint soit engagé dans la lutte.
Et les hommes, là, qui ne soutiennent pas leurs femmes ou qui les abandonnent, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi? Ils pensent que madame les a blagués, des choses comme ça?
Oui, il y en a qui pensent que madame les blague, hein. Ils nous appellent. Elle vient me dire de faire 4 semaines sans rapport sexuel. Docteur, est-ce que c'est vous qui avez dit ça? Oui, c'est nous qui avons dit. Il y a d'autres femmes qui disent, pardonnez, écrivez ça comme une ordonnance. Mettez votre cachet comme ça. Quand il va voir, il comprendra que ce n'est pas moi qui ai décidé de faire les 4 semaines. Voilà, donc ils n'ont pas aussi l'information des 4 semaines, c'est pour ça qu'on aime au départ qu'ils sont impliqués. Comme ça, ils savent, ils connaissent tout le circuit. Voilà. Mais c'est bon, quand ils appellent, ils disent, non, je suis le mari de telle femme, est-ce que c'est vous qui lui avez dit? Oui monsieur, c'est nous, s'il vous plaît, faites l'effort de patienter pour gagner votre femme pour le reste de la vie. Sinon vous prenez des risques de la perdre maintenant, si vous vous pressez. Mais c'est vrai qu'il y a eu des cas rares où les femmes n'ont pas pu résister à la fin parce qu'il a mis tellement de pression, mais on leur dit pardonnez, allez-y doucement avec un préservatif pour ne pas envoyer d'infection pendant que le col n'est pas encore bien cicatrisé. Parce que quand ça cicatrise, ça fait des croûtes. N'importe quelle plaie, dès qu'on enlève la croûte, ça recommence. Voilà, ça resaigne. Donc doucement, s'il vous plaît. D'accord, j'ai compris. Puis voilà. C'est ça. Elle rit. Parce qu'après les 4 semaines, ils m'ont appelé. Est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils peuvent? Non, je dis, non, elle vient de l'hôpital. Le gynécologue dit d'attendre un peu. Donc, pardon, est-ce que tu peux mettre une semaine, tout au plus deux semaines? Est-ce qu'on peut négocier? Bon, on a vraiment communiqué tout. Voilà, communiqué, demandé pardon. Monsieur, s'il te plaît, tu as commencé, tu as fait de bonnes choses. On est presque au bout, s'il te plaît, ne gâte pas tout. Voilà, non, c'est comme ça, il rit, il dit d'accord, j'ai compris, bon, d'accord, tu comprends, j'ai dit ok, et puis on a pu tenir les 2 mois, voilà, c'est ça.
Louise Fofana est sage-femme diplômée d'État et coordinatrice de la santé de la mère et de l'enfant dans le district sanitaire d'Adjamé. Elle dresse un premier bilan du projet Success dans son district.
Avec le projet Success, on s'est fixé un objectif, vacciner 90% des jeunes filles de 9 à 14 ans et que 70% de ces femmes de 25 à 49 ans soient dépistées et qu'au-delà de ces dépistages, 90% de ces cellules précancéreuses soient traitées.
Alors justement, où en êtes-vous? Est-ce que ce qui se passe en ce moment correspond aux objectifs fixés?
Oui, sans trop se lancer des fleurs, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, en termes de l'offre des services, on est peut-être un peu au sommet, hein, par rapport aux autres districts dans la région d'Abidjan 2. Parce qu'aujourd'hui, on a atteint plus de 70% de la cible qui nous était fixée pour le dépistage. Il faut dire que cette réussite a été possible grâce à l'implication du district. Et aussi, ça a été possible parce qu'on a reçu les appareils de thermocoagulation pour l'ablation. En fait, c'était un défi majeur puisque quand on faisait les campagnes dans le temps avec l'IVA, sans passer par
l'inspection
les
visuelle.
HPV, voilà, sans passer par les tests HPV, c'était un peu compliqué pour les femmes avec les petites lésions de inférieures à 75%. Pourtant, c'est des traitements qu'on pouvait faire en moins d'une minute et puis donner un calendrier, un chronogramme de suivi aux femmes. Mais toutes ces femmes étaient obligées d'être référées vers d'autres structures, même en dehors du district. Et évidemment, c'est un peu compliqué quand on connaît la situation de nos familles en Afrique, ici, surtout en Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Et comme on le dit, le cancer est un tueur silencieux. Tant qu'on n'a pas d'effet néfaste qui empêche de vaquer à ses occupations, évidemment qu'on ne verra pas que c'est une nécessité d'aller quelque part. Donc vraiment, cet aspect, ça nous a beaucoup aidé. Et aussi la sensibilisation. C'est vrai que c'est peut-être au niveau de la vaccination pour la prévention que le problème se pose pour les enfants avec le refus des parents, les tabous et les préjugés. La question du la qualité même du vaccin contre le HPV a posé un problème.
Le papillomavirus.
Voilà, le papillomavirus a posé un problème même depuis l'Occident jusqu'ici. Et tout ce que ça a soulevé comme tabou, comme boucan dans les réseaux sociaux, vous savez que la Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge. C'est les mêmes réseaux sociaux. Le monde est un village planétaire. Donc, ce qui se dit à l'Occident, c'est la même chose qui se dit en Afrique ici. Et
particulièrement, qu'est-ce qui se dit, par exemple? Parce que moi, je ne suis pas particulièrement.
Le vaccin n'est pas de qualité. C'est un vaccin qui va entraîner la stérilité des enfants. Peut-être même que, comme au début, les gens n'adhéraient pas trop à la vaccination contre la COVID-19, c'est une forme de sournoise de vacciner les enfants contre la COVID-19 pour entraîner non seulement la stérilité et même peut-être transmettre le virus du COVID aux gens. Enfin, il y a tellement de tabous, il y a tellement de préjugés qui sont aujourd'hui un réel problème, un défi majeur à surmonter dans le cadre de la vaccination des jeunes filles. Mais néanmoins, à travers la direction centrale du programme élargi de vaccination que nous appelons couramment la DCPF, des campagnes sont menées, des campagnes d'intensification, si bien qu'en 2021, je crois qu'on était à plus de 111% de notre cible à vacciner. La cible était autour de 10 000, mais on a pu vacciner plus de 11 000 enfants de 9 ans. Je crois que c'est aussi un record. Mais néanmoins, ce n'est pas facile, on continue toujours le combat, les faits, nous, ça ne finit pas. Mais néanmoins, comme je l'ai dit, c'est un défi majeur et nous croyons pouvoir relever ce défi.
Donc le programme Success est censé s'arrêter en 2023. Quel est le défi majeur, du coup, après cette date de 2023?
Le principal défi dans les années à venir, c'est d'amener les gouvernements à s'impliquer davantage, les prestataires à s'impliquer davantage, les acteurs de la santé dans tous les niveaux de la pyramide sanitaire à s'impliquer davantage dans ce qui avait été commencé, parce qu'il faut pouvoir pérenniser ce qui a commencé. C'est vrai que dans les 3 années du projet Success, ce n'est pas évident qu'on puisse atteindre l'objectif, mais nous pourrons espérer tendre vers l'objectif. Donc, j'y crois fermement. À tous les niveaux, on est impliqué. Il faut qu'on sache qu'on peut être affecté ou infecté. Donc, il faut s'impliquer. Je crois personnellement que dans mon engagement, et c'est ce que je transmets à mes collègues et à mes consoeurs, nous pouvons y arriver avec un engagement personnel. L'État ne va pas descendre dans les structures de santé pour faire le travail à la place de quelqu'un. Il faut un engagement, il faut une prise de conscience, il faut une mobilisation personnelle.
Un projet Success qui a encore quelques lacunes. On retrouve le docteur Ida Zadi, conseillère technique.
Vous savez que le test HPV est nouveau en Côte d'Ivoire. Et là, les laboratoires qui le font faisaient autre chose. Par exemple, le Guinness, à la base, il est arrivé en Côte d'Ivoire pour faire le Beka Cracha.
Pour la tuberculose.
La tuberculose, voilà. Et maintenant, on a su qu'avec d'autres types de cartouches, cet appareil peut faire les tests HPV. C'est comme ça qu'on a contacté le Programme national de lutte contre la tuberculose pour utiliser les CAT, les appareils qui sont dans les CAT. 2 laboratoires, Poto Abidjan. C'était trop limite. Ce qui a fait que les laboratoires ont duré. Et c'est pareil pour Abbott.
Donc Abbott, c'est une autre façon de faire le test.
C'est une autre façon de faire le test. Et le seul labo d'Abbott, du CIBA, fait toutes les analyses de la Côte d'Ivoire, des 3 grandes villes qui font le projet. Ça fait plus de 1000 prélèvements qu'ils reçoivent. L'équipe n'est pas renforcée. C'est une seule machine qui fait en 24 heures, tout au plus 3 tours de 96 échantillons. C'est pas facile. On a vu que c'est énorme. On a été vraiment trop prétentieux en pensant qu'en 2 semaines, on pouvait les rendre. Mais non, en réalité, c'est plus d'un mois. Surtout pour ceux des résultats qui vont à l'intérieur, c'est-à-dire les prélèvements qui quittent l'intérieur du pays et qui doivent retourner, ça fait des semaines qui s'ajoutent. Donc c'est ça vraiment un des grands défis. Donc on espère que quand ils vont rentrer dans la routine des gardes, les résultats vont faire moins d'un mois. Ça, c'est vraiment notre espoir.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas décentraliser les laboratoires parce qu'il y a une perte de temps aussi à ce niveau-là?
Exactement. Donc, la nouvelle stratégie, nous sommes en train de voir dans chaque district repérer un laboratoire pour analyser les prélèvements des sites qui seront dans le district.
Est-ce que, par exemple, dans ce projet Success, il y a également Boaké et Daloa?
Oui.
Pour toutes les femmes qui se font prélever à la fois à Boaké ou à Daloa, les analyses se font à Abidjan?
Les 100% des prélèvements viennent à Abidjan. Mais la stratégie qui est en train d'être mise en place, c'est qu'à Boaké, il y a un labo qui a une machine roche. En ce moment-là, tous les prélèvements de Boaké resteront à Boaké. Pour Daloa, il n'y a pas de roche à Daloa, mais à Yamsokro, qui n'est pas loin de Daloa, il y a un laboratoire, le CHU a un roche. Donc les échantillons de Daloa viendront à Yamsokro. Comme ça, Abidjan va se gérer seul. Dans chaque district d'Abidjan, il y aura au moins un laboratoire pour analyser les échantillons des sites de ce district. Ça va vraiment raccourcir le délai de rendu de résultats. Nous comprenons les prestataires, nous comprenons les femmes qui se plaignent. C'est un souci pour tout le monde. À leur place, on allait ressentir ce même découragement, mais c'est bon, c'est en bonne voie.
Alors Igor Strauss, il y a donc ces problèmes dans les laboratoires d'analyse. C'est beaucoup trop long. Quels sont les autres points à améliorer?
Il faut encore améliorer et renforcer la communication, notamment dans les villages les plus reculés, qui manquent cruellement d'informations. Et beaucoup en Côte d'Ivoire souhaitent associer les leaders traditionnels et religieux à la lutte contre le cancer du col de l'utérus qui concerne tout le monde et pas seulement les femmes. Et puis bien sûr, Caroline, améliorer la vaccination des jeunes filles en faisant comprendre aux mamans l'intérêt d'une telle vaccination. C'est la seule façon d'atteindre l'élimination de la maladie d'ici 2030.
Merci Igor et on laisse le mot de la fin au docteur Ida Zadi.
Le message que je passe à la Côte d'Ivoire, l'Afrique en général, mais à la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons tous peur des cancers. Il y a heureusement un qu'on peut éviter. Arrêtons d'écouter les tabous. Tout ce qu'on fait dans les hôpitaux, c'est pour la santé de la population. Arrêtons d'écouter tout ce que les gens peuvent raconter contre notre santé. Venons nous faire dépister, toutes les femmes. Je suis femme, je suis passée par là. J'ai été traitée pour une lésion précancéreuse. Moi, elle était petite, donc ça a été une thermo. Aujourd'hui, je vais bien. J'ai fait mes contrôles, je vais bien. J'ai évité quelque chose de grave. Pour dire que ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Personne ne sait s'il a pris un HPV ou pas. C'est seulement venant se faire dépister pendant qu'on n'a pas de signe qu'on peut être sauvé. N'attendons pas de saigner. Le saignement est déjà grave. Voilà. Donc, toutes les femmes de la Côte d'Ivoire sont invitées à se faire dépister de 25 à 49 ans. C'est comme ça qu'on ne va plus être en deuil dans nos familles. On a remarqué que ce sont les femmes qui ont eu un proche qui est décédé de cette maladie qui sont motivées à le faire. Mais les autres ne savent pas ce que c'est. Mais on informe aujourd'hui qu'il y a quelque chose de silencieux qui tue. Venons et sauvons nos vies. Merci.
L'intensification de la lutte contre le cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire, c'était un reportage d'Igor Strauss, réalisé par Didier Bleu.
Et un grand merci à Mélissa Archambault, chargée du projet Success à Expertise France, qui nous a permis la réalisation de ce reportage.
Et demain, nous parlerons de la mortalité maternelle et infantile dans les pays développés, indicateur en hausse dans certaines régions du monde. Aux États-Unis, les inégalités pour les mères afro-américaines. En France, dégradation du côté de la mortalité infantile. Des éléments d'explication. Quelles pistes d'amélioration? On en parle demain dans Priorité Santé, dès 9h10, temps universel. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans tous vos challenges personnels et professionnels.